Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue dans la saison 3 du podcast Parents informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous la forme d'une interview avec un ou une intervenante spécialisée d'un thème choisi. Dans la vie, je fais de la gestion de projet. Je ne suis pas une professionnelle de la petite enfance. Ici, je pose toutes les questions que l'on peut se poser en tant que parent, dans la vie de tous les jours, et je te transmets les réponses des professionnels que j'ai la chance de rencontrer. Et oui, je suis maman de 2 filles de 8 et 5 ans et demi, et belle-maman de 2 ados de 11 et 16 ans. Alors des questions, j'en ai eu et j'en ai encore beaucoup. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon. Pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 56e épisode, je reçois Kevin Rocamora, qui est pompier professionnel et le fondateur de Famille de Sauveteurs, la première formation de secourisme à domicile destinée aux jeunes parents et à leurs proches. Cela concerne les nouveau-nés, bien sûr, mais aussi les enfants, ainsi que toute la famille. Dans cet épisode, on aborde les grands risques que l'on peut rencontrer avec nos enfants, comme l'étouffement et la noyade, mais aussi beaucoup d'autres. Il est à la fois question de prévention et de gestes qui sauvent. On parle également de la mort subite du nourrisson, du spasme du sanglot ou des convulsions hyperthermiques. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en avais jamais entendu parler avant d'être parent, et j'aurais adoré connaître les gestes à tenir au cas où cela arrive à mes enfants. Évidemment, cet épisode ne peut pas et n'a pas vocation à remplacer une formation, mais c'est un premier pas qui, je l'espère, vous donnera envie de vous former si ce n'est pas déjà le cas. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Kevin.
Salut Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Mais merci à toi de m'avoir invité.
Avec toi, on va parler des premiers secours, premiers soins, ce qui nous fait un peu peur avec nos enfants quand on a des tout petits bébés. Mais avant, est-ce que tu peux me parler de ton parcours et me donner un peu ton activité, s'il te plaît?
Oui, alors effectivement, comme tu dis, d'abord, ça fait peur parce qu'il y a de l'inconnu là-dedans aussi. C'est qu'en fait, on n'ose pas trop aborder le sujet de peur que ça arrive. On fait un peu l'autruche, en fait, je trouve. Donc, c'est super important d'éclairer le sujet. Il faut en parler. Il ne faut pas que ce soit tabou. Il faut que les gens soient formés. Donc, d'où ma démarche, notamment de ce podcast aujourd'hui. Donc, je m'appelle Kevin Rocamora. J'ai 32 ans. Je suis papa d'une petite Cassandre et tout récemment d'une petite Victoire. Je suis pompier professionnel dans l'Hérault, à Béziers. Et il y a 4 ans, donc quand Cassandre est née, j'ai créé une formation de secourisme à domicile pour les jeunes parents. L'idée, c'est former les parents à domicile, chez eux, dans un cadre bienveillant, avec leurs proches, avec les gens qu'ils aiment, pour vraiment dédramatiser un petit peu cette formation, comme je disais en intro, et pour permettre aussi à ceux qui ne peuvent pas franchir le pas dans une salle de formation de pouvoir faire ça chez eux.
Et du coup, toi, tu es de l'Hérault, tu fais ça dans toute la France ?
Alors, actuellement, pour des contraintes budgétaires, je ne pouvais pas trop me déplacer. Donc, je me suis déplacé, par exemple, à Toulouse quelques fois en regroupant des formations. Je me suis regroupé, j'ai regroupé aussi quelques formations en Corse, par exemple, du côté d'Ajaccio. Donc l'idée, en fait, maintenant, c'est, comme ça fonctionne bien sur mon territoire, sur mon secteur géographique proprement défini, l'idée, c'est étendre ça au territoire national en ayant des formateurs franchisés un petit peu partout. Ça, c'est vraiment l'idée, avec la même pédagogie, avec la même bienveillance, avec le même contenu pédagogique. Voilà, c'est tout simplement un truc accessible à tout le monde. La formation, elle est très courte, elle dure 3 heures. L'idée, c'est pas forcément de donner un diplôme de secourisme parce qu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment de donner les connaissances et du contenu aux parents pour les rassurer. Voilà.
Ok, ça marche. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, le premier risque, le truc qui m'a fait le plus peur quand je suis devenue maman pour la première fois, c'était la mort subite du nourrisson. Parce que je trouvais ça un peu, comment dire, j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui était le plus gros risque et comment le pallier. Donc c'est le truc le plus qui fait le plus peur, quoi. Tu te dis, j'ai pas de prise là-dessus, j'ai pas comment faire. Est-ce qu'il y a des gestes de prévention qu'on peut mettre en place quand même pour éviter ça?
Alors oui, tout à fait. Alors encore une fois, ça fait peur parce que c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose dont on n'a pas non plus totalement connaissance. Ce n'est pas tous les parents qui ont la chance d'être informés en maternité notamment ou par des pédiatres ou autres des risques potentiels au même titre que les autres risques du programme d'ailleurs. Donc, mais pour autant, il faut savoir que ça existe malheureusement. Mais il y a des petites choses à faire comme tu l'as dit, on peut en parler un petit peu si tu veux. Donc déjà, il faut savoir que selon la Haute Autorité de la Santé, la mort inattendue du nourrisson, pardon, c'est quelque chose qui concerne les enfants de 0 à 2 ans.
D'accord, ça va jusqu'à 2 ans.
Jusqu'à 2 ans. C'est la Haute Autorité de la Santé qui dit, sachant que la grande majorité des cas, c'est entre 0 et 1 an. Ça concerne 400 à 500 nourrissons par an, à peu près. Et
OK.
en fait, certaines personnes parlent de syndrome de mort subite, d'autres de la mort inattendue, c'était pas très clair. En fait, ce qui se passe, c'est que la mort inattendue, c'est une grande famille. Dans cette mort inattendue, on a 50% de syndrome de mort subite du nourrisson et 50% expliqués post-mortem. En fait, ça va être tout simplement tout ce qui est anomalie cardiaque qui n'a pas été décelée au niveau des échos, les maladies infantiles, les maltraitances, la négligence, ce genre de choses. En fait, ça, malheureusement, ce sont des choses auxquelles il n'y a pas grand-chose à faire en termes de prévention. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de syndrome de mort subite du nourrisson, parce qu'en fait, là, il y a de la prévention à faire sur cette mort subite du nourrisson. Mais le thème général, on appelle ça la mort inattendue du nourrisson.
Ok, et s'il y avait un geste à retenir dans les consignes de prévention, c'est quoi?
En fait, c'est tout mis bout à bout, tout cumulé, qui va permettre de diminuer ce risque. Le risque zéro n'existe pas, on le sait, mais on dit, voilà, par des choses simples, en fait, coucher bébé sur le dos, par exemple. Voilà, je fais partie d'une génération, je suis né en 1990, mes parents me faisaient dormir sur le ventre parce que les pédiatres le recommandaient. Simplement, ils n'avaient pas le recul de dire, en fait, un enfant qui dort sur le ventre est moins alerte parce qu'il est beaucoup plus endormi. Un enfant dormait sur le ventre que sur le dos. Du coup, quand il y avait une petite alerte au niveau du cerveau, par exemple, attention, de la salive passe dans le mauvais conduit, le cerveau n'envoyait pas le réflexe au poumon de tousser, en fait, si tu veux.
Ouais, c'est pour ça que nous, on dormait mieux, par contre.
On dormait mieux. Du coup, les pédiatres ont dit, on va essayer sur le dos, et effectivement, on est plus alerte, on est plus tendance à se réveiller sur le dos. Voilà la vraie raison pour laquelle les enfants dorment sur le dos.
D'accord, ok, ça marche. Donc on met continue à mettre nos enfants sur le dos, même s'ils dorment mieux sur le ventre, on sait, mais.
Après, ça va être le matelas qui est pas assez dur dans les premiers mois. Ça va être le doudou qui est au niveau du visage. Ça va être la température de la chambre qui est trop haute. Tout ça, tous ces facteurs font que, voilà. Il y a même dans les recommandations aujourd'hui, encore, c'est écrit, c'est pas de moi. Hein. Il ne faut pas donner de sédatifs au bébé pour dormir. Alors, ça paraît logique en soi. Mais sauf que, quand je le dis en formation, les gens rigolent. Mais si tu as vu le Walt Disney original Peter Pan, le papa du sirop à l'enfant pour dormir. En fait, c'est la chienne qui s'appelle Nala, si je me souviens bien, qui boit le sirop, qui s'endort, et l'enfant part au pays imaginaire, elle a fait clochette, en fait. Donc, c'était même l'heure de Walt Disney, si tu veux, tellement c'était courant avant de donner du sédatif.
Non, mais c'est là où on voit aussi l'évolution entre nos grands-parents et aujourd'hui, quoi.
Complètement.
Ok. Dans mes souvenirs, jusqu'à ce que les enfants y bougent, moi, j'avais pas trop d'inquiétude sur leur santé. Est-ce qu'il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention, même avant que l'enfant bouge, dans les gestes qu'on peut avoir du quotidien?
Alors, comme ça, directement, je pense aux chutes de la table à langer. Ça, c'est un truc, voilà, on n'y pense pas forcément parce que bébé, il vient de naître, il a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il ne sait pas encore se retourner, 2 mois, 3 mois, pareil, il ne sait pas se retourner. Fois le nombre de fois qu'on change un enfant tous les jours sur le nombre d'enfants qu'il y a en France, ben, toujours il y a des enfants qui chutent de la table à langer, en fait. Parce qu'on pense qu'il ne peut pas se retourner, sauf que certains enfants décident de se retourner à ce moment-là. Et c'est comme ça que ça arrive. Donc, on imagine un enfant qui chute d'une table à langer, proportionnellement parlant, c'est comme si nous, on chute du premier étage, en fait.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Alors, il y a plein de choses à regarder. Le problème sur les nourrissons et même les enfants en bas âge, c'est la communication. On n'a pas de moyens de communication avec eux. Donc, il faut être observateur des signes de suite. Est-ce que mon enfant pleure? Si mon enfant pleure de suite, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu connaissance. Si mon enfant se met à vomir dans les minutes qui suivent, change de comportement, voilà, ça, c'est des signes qui doivent être alertes. Et quoi qu'il en soit, ça, c'est le message de base qu'il faut faire passer. C'est en cas de doute, il faut faire le 15. Il ne faut pas hésiter à faire le 15. On ne les dérange pas, c'est leur métier. Ils sont là avant tout pour donner des avis médicaux. Du moment que vous avez un doute sur, par exemple, c'était un bon exemple, mais ça peut être tout autre quoi. Ça, voilà, mon enfant fait de la fièvre, j'ai donné du Doliprane, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je vais aux urgences ou pas? Ben, plutôt que d'encombrer les urgences, il vaut mieux faire le 15. Ils vous donneront des vraies indications en fait. Voilà.
C'est vrai qu'en tant que parent, des fois, moi, la première, on se dit non, mais en fait, ça va passer, je vais pas les déranger juste pour ça. On sait que c'est les services de secours, ils sont submergés. On a parfois tendance à hésiter à les appeler.
Je peux comprendre. Je peux comprendre. Pourtant, c'est dans leur mission première de répondre, de donner des avis médicaux, en fait. Alors évidemment, on ne va pas les appeler pour demander à quelle température faire bouillir un œuf, quoi. Ça, c'est évident. Maintenant, du moment que vous avez un doute en tant que jeune parent, il faut vous rassurer. Sinon, vous allez focaliser dessus et puis ça ne va pas passer. Et puis vous allez attendre, plus ça va s'empirer, quoi. Donc voilà. Et après, plus l'enfant grandit, plus on le connaît, plus on est alerte en fonction de ce qu'il a, quoi. On apprend à le connaître. Parce qu'on découvre, hein, au début, moi j'ai fait connaissance avec ma fille il y a 3 semaines, par exemple, quoi. On découvre, on fait connaissance, tout simplement.
Ouais, et puis chaque enfant est différent, donc c'est vrai que les signes ne sont pas toujours les mêmes et ils supportent pas les mêmes choses aussi.
Tout à fait. Mais on a aussi la super trousse de secours à la maison.
Alors du coup, c'est quoi les indispensables de la trousse de secours à la maison?
Alors, du coup, dans les formations, à la base, il n'y avait pas prévu forcément de délivrer une trousse de secours. C'est vraiment une demande des parents à force d'en faire. Donc, du coup, je me suis exécuté. Je leur propose à l'issue de la formation une trousse de secours et uniquement à l'issue de la formation, parce que du coup, il y a du matériel dedans un petit peu technique à savoir appliquer. Donc, je ne les vends pas en dehors des formations, en fait. Ça pour dire, ça, on la retrouve sur Internet ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement aux parents qui ont à pratiquer la formation. Il y a plein de choses. Ça va du bobo pour soigner papa ou maman qui bricole ou qui fait la cuisine, qui fait une hémorragie par exemple, avec le gros coussin hémostatique à appliquer pour stopper une hémorragie. Ça va jusqu'au kit main sectionné, une petite poche pour les doigts sectionnés. Alors ouais, à chaque fois, attention, les parents, ils hallucinent un peu. Sauf que je leur dis, une porte qui claque, le grand frère qui claque la porte d'entrée ou quoi, ça arrive, les doigts sectionnés chez les enfants.
D'accord.
Alors, encore une fois, je vais reprendre l'animal, il ne faut pas faire l'autruche. Ça arrive, il faut savoir pratiquer, il faut faire de la prévention, il faut savoir conditionner un membre sectionné, il n'y a rien de compliqué. D'accord? C'est très impressionnant, certes, oui, mais ça peut grandement augmenter les chances de grève de votre enfant, par exemple. Voilà. On a des petites poches de froid à percuter, en fait, c'est des billes de froid, et quand on les tape, ça fait du froid pendant 15 à 20 minutes. Alors, ça, on peut très bien s'en servir pour mettre dans la poche membre sectionné pour garder le froid au frais. On peut s'en servir pour les insolations. Un enfant, voilà, un enfant qui fait une insolation, par exemple, on met une poche de froid sous les deux bras, on a l'artère humérale qui passe sous le bras, et ça permet de refroidir tout le circuit, par exemple.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça qu'on a l'information. Et évidemment, la vocation première de ces poches, c'est vraiment mettre du froid quand l'enfant se cogne.
C'est vraiment la première chose à faire quand l'enfant se cogne, c'est mettre du froid.
J'ai fait deux expériences malgré moi à la maison, je peux t'en parler. Ma fille s'est pris deux angles de table, donc c'est pas vraiment des angles, les angles sont arrondis,
Ça fait mal, quoi.
mais elle a pleuré de suite, pas de souci, donc pas de perte de connaissance. Le premier coup, j'ai d'abord fait un câlin pour la rassurer, etc. J'ai essayé le bijou magique, bon, ça n'a pas marché. Il y a une grosse bosse qui est apparue. 15 jours plus tard, elle me fait la même chose. Et vraiment, la même vélocité, le même endroit. Voilà. Et j'ai mis du froid de suite. La bosse n'est jamais sortie. Donc c'est pour preuve, en fait, le froid, c'est un vasoconstricteur. Ça empêche aux hématomes de se créer, de sortir. Donc c'est important de mettre du froid de suite. Et c'est un médicament qui marche pour tout le monde. Généralement, on me demande, l'arnica, ça marche aussi. Alors oui, l'arnica, ça marche pour certaines personnes, pas tous. Donc moi, je ne mets pas d'arnica dans ma trousse. Les gens qui veulent le rajouter, le rajouteront. Mais moi, c'est une trousse avec des choses qui fonctionnent pour tout le monde. Le froid, ça fonctionne. Donc en fait, il y a deux poches de froid. Et après, il y a plein d'autres choses dedans, notamment pour les brûlures aussi. On en parlera après si tu veux. Il y a plein de choses pour pallier aux petits bobos et à la grosse urgence à la maison dans le cadre familial.
Ok, ça marche. Quand les enfants ils commencent à manger en diversification alimentaire, l'un des plus gros, les des plus grosses peurs des parents, c'est que les enfants s'étouffent. Et on en parle de plus en plus parce que de plus en plus on parle de diversification alimentaire autonome avec des gros morceaux et donc ça fait encore plus peur aux parents parfois. Déjà, est-ce qu'il y a un très gros risque d'étouffement chez les enfants? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que notre enfant il s'étouffe?
Alors, c'est des bonnes questions. D'abord, comment un enfant peut s'étouffer dans la vie de tous les jours? Il y a beaucoup plus d'enfants qui s'étouffent avec l'alimentation qu'en jouant.
D'accord.
Donc ça, déjà, c'est rassurant. Parce qu'en fait, on se dit, un enfant qui mange est sous la surveillance d'un adulte. Moins forcément quand un enfant joue. Il peut être autonome quelques minutes, un enfant qui joue, en fait. Surtout quand il y a le grand frère, la grande sœur avec des objets un petit peu plus petits. Généralement, c'est comme ça que ça arrive quand c'est sur les objets. Donc, en fait, il y a le petit frère qui arrive et qui prend l'objet qu'il n'aurait pas dû toucher. Voilà. Mais généralement, c'est sous la surveillance d'un adulte parce que c'est à table. Donc, ça, c'est une grosse plus-value parce que l'adulte est présent. Du coup, en sachant pratiquer, ben, il n'y a aucune raison que les gestes de base qu'on enseigne en formation ne fonctionnent pas. Voilà, c'est des gestes mécaniques, en fait. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, en fait. Voilà. Il faut savoir pratiquer, il ne faut pas hésiter, tout simplement.
Ok. Sur l'alimentation, c'est des questions que les gens ils te posent beaucoup. C'est des questions qui se posent beaucoup, eux.
En fait, les parents qui choisissent de faire de la DME sont beaucoup sujets à ça. Alors, généralement, voilà, les gens qui font de la DME sont avertis du risque, donc ils sont formés ou ils se forment tout seuls, en fait, via les réseaux, via YouTube aussi, il y a pas mal de choses. Voilà, donc généralement, on retrouve des choses plutôt correctes sur YouTube. Enfin, attention aussi de ne pas trouver tout et n'importe quoi comme vidéo, donc se référer aux vidéos officielles, notamment Croix-Rouge, Sécurité civile, etc., Protection civile. Mais l'idée, c'est on peut arriver à se former sur Internet. Rien ne vaut la présence d'un formateur en face à face avec du matériel de secourisme professionnel qui vous mettra à disposition, évidemment. Mais comme je dis en formation, voilà, une fois qu'on a vu les gestes en visuel avec un formateur, on n'est pas obligé d'avoir des mannequins de secourisme à 350 € pièce pour pratiquer à la maison, quoi. Le but, c'est pratiquer régulièrement pour maintenir ces gestes avec une peluche, avec un poupon, et ça fait largement l'affaire.
Quels sont les signes si on est en train de donner à manger à notre enfant? On imagine, on tourne la tête parce qu'il y a le petit qui mange aussi. Qu'est-ce qui doit nous alerter sur le fait que notre enfant, il est en train de s'étouffer?
Alors, ben, je peux te parler concrètement parce que ma fille, encore une fois, s'est étouffée pas plus tard que cet été, 3 ans et demi, et de la peau de raisin à table. Donc, non, moi j'ai pour habitude personnellement d'éviter les problèmes au max. Donc, les raisins, pardon, j'enlève la peau, je les coupe en deux, j'enlève les pépins. Voilà, bon, j'ai oublié d'enlever la peau d'un demi-raisin. Et voilà, patatras, ce qui devait arriver arriva. Et donc, ma fille s'est étouffée. Donc, concrètement, elle s'est levée de sa chaise. La bouche grande ouverte, un réflexe nauséeux sans que rien ne sorte. Ils n'ont pas encore les réflexes, contrairement aux adultes, de mettre les mains à la gorge. Les adultes mettent les mains à la gorge tout de suite pour localiser le problème, c'est un réflexe. L'enfant n'a pas forcément ce réflexe-là. Et en fait, ben, on le voit de suite, quoi, l'enfant se lève. Voilà. Donc le danger, en fait, c'est qu'un enfant qui s'étouffe ne fait pas de bruit. Ça, c'est important à savoir.
Comme pour la noyade, quelque part.
Bon, un enfant qui s'étouffe ne fait pas de bruit non plus, tout à fait. Un enfant qui fait du bruit en s'étouffant, c'est qu'il s'étouffe à moitié. Donc rien que par l'atout, il va réussir à dégager l'objet. C'est un réflexe naturel, c'est un réflexe de survie, l'atout, en fait. Donc on laisse tousser un enfant, ça c'est important. On ne pratique aucune manœuvre de désobstruction sur un enfant qui tousse. Sinon, on peut interrompre le système de survie, en fait. Donc c'est un petit peu contre nature, parce qu'on a tous tendance à vouloir aider à taper dans le dos de quelqu'un qui s'étouffe. Mais si la personne tousse, on l'aide à tousser, on l'encourage à tousser, et on attend que ça passe, et vous verrez que l'objet remontera, en fait. Donc, par contre, quelqu'un qui s'étouffe totalement. Je reviens à ma fille cet été. Là, j'ai pratiqué 5 tapes dans le dos. D'abord, c'est ce qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4, 5. Des tapes vigoureuses quand même. Le but, en fait, c'est bouger l'objet et laisser apparaître une tour réflexe, justement. Donc, à la 5e tape, je l'ai un peu plus appuyée, la 5e, j'avoue. Elle est facilement l'objet, donc en l'occurrence, la peau de raisin est remontée. Et voilà, ma fille a repris sa vie comme si rien n'était. Elle voulait du raisin encore. Nous, on était au bout de notre vie avec ma femme. On n'en pouvait plus, donc on a donné du jus de raisin pour compenser un peu, mais elle, ça ne l'a pas du tout perturbée, quoi. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas hésiter à y aller fort, en fait. Voilà, il faut sauver la vie, il faut y sauver la vie, tout simplement, quoi. Donc il ne faut pas maîtriser son geste. Voilà.
Ouais, c'est marrant ce que tu dis sur le fait que l'enfant il reprend sa vie tout de suite. Parce que moi, ma fille, par exemple, elle est tombée dans la piscine, elle avait 2 ans. On était juste à côté, on l'a sortie en 10 secondes, quoi. Et elle, 5 minutes après, elle sautait dans le trampoline, elle avait rien à secouer, quoi. Et nous, on était au bout de notre vie, on avait l'impression qu'on n'allait jamais s'en remettre. C'était un.
Alors que c'est normal, on n'est pas des machines, on peut passer au travers de quelque chose, que cela survient dans une piscine, un étouffement, quoi. C'est normal. On apprend aussi en tant que jeune parent. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent. C'est pas vrai qu'on apprend sur le tas. Et puis même, chaque enfant est différent, comme tu disais très bien tout à l'heure. Donc, en fait, on apprend aussi à être parent par rapport à chaque enfant. Ça, c'est tout à fait vrai.
Mais oui. Et par rapport à la noyade, justement, moi, ce qui m'avait marqué, c'est le fait que l'enfant qui tombe à l'eau, il ne fait pas de bruit. En fait, moi, j'avais dans l'image des films où l'enfant qui se noie, t'entends les clapotements. Non, en fait, moi, je peux vous le dire, ma fille, elle est tombée. Elle était sous notre nez, vraiment, on était juste à côté, quoi. Il n'empêche qu'elle est tombée et que ça ne fait aucun bruit. Il ne se passe rien, en fait.
Tout à fait. Donc, il faut savoir que la noyade, quand même, c'est la première cause de décès par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Donc, en gros, pour résumer, dans le cadre familial, dans le cadre domestique, c'est la première cause de décès chez les moins de 25 ans. Pour ça, en fait, il y a plein de choses Il y a une enquête en 2021, une enquête de Santé publique France, en fait, et ils ont déterminé qu'en fait, 22% des débuts de noyade concernent les moins de 6 ans. Très peu de décès, 6% de décès, ce qui est assez conséquent, certes, hein, mais en fait, par rapport au ratio, c'est pas grand-chose en termes de quantité purement. Donc, en fait, la plupart des noyades chez les moins de 6 ans arrivent lorsque l'enfant ne se baigne pas. En fait, il est à l'extérieur de la piscine, sous la surveillance d'un adulte ou de plusieurs adultes, et c'est comme ça que le dommage arrive, en fait. Comment ça se passe? La plupart du temps, ça arrive lors d'un repas de famille, lors d'un repas entre amis. C'est un milieu qui est bienveillant, c'est un milieu où tout le monde a confiance en tout le monde, et donc personne ne surveille l'enfant, en fait, parce que tout le monde pense que celui l'autre surveille l'enfant. Comme je dis en formation, vous prenez le même cas sur un séminaire d'entreprise, avec une piscine au milieu, avec que des entrepreneurs, des gens que vous ne connaissez pas, et bien, votre enfant ne se noiera pas, parce que vous allez avoir toujours un œil dessus, en fait. Chose qui peut ne pas être le cas lors d'un repas de famille, repas entre amis. Donc, c'est important vraiment de désigner une seule personne responsable par enfant. Ce n'est pas sur la globalité, c'est par enfant, parce que s'il y a quatre petits cousins qui se baignent dans la piscine et qu'il y a une seule personne qui surveille, on n'est pas tout le temps en train de les compter, quoi. Et comme tu l'as très bien dit, un enfant qui s'ouvre, il ne fait pas de bruit. Donc, on va rapidement l'oublier, surtout si on est en train de parler à un ou à l'autre. Donc, c'est un enfant surveillé par un seul adulte. Donc, s'il y a quatre enfants, c'est quatre adultes différents qui surveillent les enfants. C'est très important.
Ok, ça marche. Nous, moi, je me souviens, ça c'était mon angoisse, la piscine. Donc, la première chose qu'on a fait quand on a acheté la maison, c'est mettre une clôture au bord de la piscine. J'ai dit, je veux pas que les enfants puissent aller dans la piscine si nous, on n'est pas avec eux, quoi.
C'est super important de protéger la piscine. Alors, il y a différentes manières de les protéger, il y a différentes normes. Voilà, ce qui est recommandé le plus, c'est vraiment les barrières. Ou les bâches normées, je parle évidemment, voilà, c'est vraiment officiel. L'alarme, c'est une norme, mais évidemment, l'alarme n'empêche pas la noyade. Voilà. Récemment, j'en profite, je fais une petite aparté, si tu me le permets. Je me suis associé avec une entreprise qui s'appelle Floti, c'est une start-up de Toulouse, qui a créé le premier t-shirt anti-noyade, en fait. Ils se sont rendus compte que, comme je viens de dire, voilà, après, c'est les chiffres qui parlent, c'est pas nous, les noyades arrivent tout le temps, sauf quand l'enfant se baigne, pour la plupart du temps, en tout cas. Du coup, ils ont créé un t-shirt qui ressemble ni plus ni moins qu'un autre t-shirt à mettre lors des repas de famille, lors des repas entre amis. Du coup, vous mettez ce t-shirt et si l'enfant chute à l'eau par maladresse ou autre, en fait, le t-shirt va se gonfler avec la même norme qu'un gilet de sauvetage. Donc, ça remonte immédiatement l'enfant à la surface et il n'y a plus de problème. Voilà. Donc, c'est vraiment un t-shirt à mettre dans ces occasions-là. Évidemment, si l'enfant doit se baigner, il faut y aller le t-shirt, sinon il va gonfler comme un gilet de sauvetage, c'est pas le but. C'est vraiment quelque chose à mettre en prévention autour de la piscine, quoi. Donc, je me suis associé avec eux et je propose également leur t-shirt lors de mes formations avec un petit code promo pour réduire vraiment le coût du t-shirt aux jeunes parents. Voilà.
J'avais vu une vidéo démo. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle le t-shirt se gonfle quand l'enfant tombe à l'eau.
Ouais, tout à fait. J'ai pu parler au créateur, donc je suis allé manger avec lui pour vraiment faire le partenariat. Et il m'a raconté un petit peu la batterie de tests qu'ils ont subi sur le t-shirt. C'est assez hallucinant. Donc, c'est vraiment un truc qui est carré, qui marche à 100%. Il n'y a pas de doute ou quoi. C'est pas une compétition du tout avec un gilet de sauvetage. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose qui va sauver la vie de notre enfant si vous avez une piscine qui n'est pas protégée. Ou si vous allez chez quelqu'un qui a une piscine qui n'est pas protégée, du coup.
Et du coup, quand on a un enfant qui tombe à l'eau comme ça, c'est quoi le premier réflexe quand on le sort de l'eau?
Alors déjà, une fois qu'on l'a sorti, il faut rapidement voir s'il est conscient ou pas. Donc lui poser une question simple, s'il est en âge de répondre. S'il n'est pas en âge de répondre, c'est essayer des réflexes simples, des réflexes de survie, à savoir essayer de mettre une doigt ou la main dans la main pour avoir un réflexe de serrer la main. Essayer de faire des chatouilles sous les pieds très fortes pour essayer d'avoir des réflexes au niveau des orteils. On peut essayer de le stimuler avec l'épaule. faut rechercher un signe de conscience, en fait. Okay? S'il y en a un signe de conscience, c'est bien. Ça veut dire que l'enfant, il est conscient, il va reprendre la respiration, etc. On est vraiment sur un début de noyade. Nul n'empêche d'appeler le 15, quoi qu'il en soit. Voilà. Un début de noyade, c'est une noyade. Il faut vraiment avoir ça en tête.
Okay.
On prend la 10 minutes, on rapporte ce qui s'est passé, on enlève les doutes. Après, voilà, si l'enfant est inconscient, il faut rapidement regarder s'il respire. Un enfant, ça respire, un nourrisson, par exemple, ça respire entre 30 et 60 fois par minute. Donc, c'est très vite, en fait, si vous voulez. Un enfant, un petit peu moins. Un adulte, encore un petit peu moins. Donc, en fait, on va regarder la poitrine se lever et tomber. Si l'enfant respire, on le mettra sur le côté en PLS et on appellera les secours, évidemment. Et si l'enfant ne respire pas, on commencera une réanimation cardio-pulmonaire dédiée à l'enfant. Donc ça aussi, pareil, on le voit en formation. Une réanimation, si tu veux, on peut en parler.
Ouais, on peut en parler. C'est typiquement ce genre de cas où je pense que la formation est indispensable, quoi.
Ouais, ça, l'étouffement, on me demande beaucoup. C'est vrai, la formation, les deux gros attendus. En fait, la réanimation, elle consiste à alimenter en oxygène l'enfant le plus possible. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la quasi-totalité des arrêts cardiaques des enfants et des nourrissons sont provoqués par un manque d'oxygène. Du coup, on va commencer par 5 insufflations starter. Okay? Donc, on prend sa bouche dans la bouche ou le nez et la bouche si l'enfant est trop petit. Nourrisson, on prend le nez et la bouche dans notre bouche. En fait, on souffle doucement, on se relève et on repart 5 fois. On fait ça 5 fois. Une fois qu'on a fait ça, on commence une réanimation de 15 compressions avec deux doigts dans l'axe de la poitrine pour les nourrissons et une main pour l'enfant. Donc, en gros, un nourrisson, c'est 0 à 1 an et enfant, c'est 1 an jusqu'à la puberté.
Okay.
Donc, une main avec le bras tendu dans l'axe de la poitrine. Je ne sais pas si les gens vont arriver à s'imaginer au volant en conduisant, en écoutant le podcast, mais vraiment, ce qu'il faut imaginer, c'est une main, bras tendu, le corps du sauveteur perpendiculaire à celui de la victime. Et on appuie de 1/3 de l'épaisseur du thorax. Alors, c'est très théorique ce que je dis, hein, mais c'est pour rire. C'est pour que vous puissiez imaginer un petit peu. Sur un rythme de 2 par seconde. Voilà. C'est 100 à 120 mouvements par minute. Donc, on va partir sur du 120 mouvements par minute. Donc, ça fait 2 mouvements par seconde. Et il faut tenir le rythme. On fait ça 15 fois. Au bout de 15 fois, on repart pour 2 insufflations. Et on alterne 15, 2, 15, 2. Les 5 insufflations sont à faire qu'au début.
D'accord. Après, c'est toujours 15-2.
C'est ça, tout à fait.
Ok, ça marche. Et tout à l'heure, tu parlais qu'une noyade, c'est un début. Enfin, même si l'enfant va bien, c'est quand même un début de noyade. On entend souvent parler de noyade sèche. Est-ce que c'est lié, est-ce qu'il y a un lien entre un début de noyade et une noyade sèche? En quoi ça consiste?
Alors, la noyade sèche, c'est beaucoup décrié par les organisations nationales, en fait, parce qu'il n'y a aucune étude qui montre que ça existe. Pour autant, certains médecins disent oui, ça existe. Donc, en fait, on a deux étapes. Moi, je ne suis pas là pour prendre parti, je ne suis pas médecin, je ne me permettrai pas. Par contre, je suis là pour donner toutes les infos aux parents et au moins, ils ont toutes les infos et ils peuvent voir de eux-mêmes un petit peu ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, tout en connaissant l'enfant. La première école, c'est celle de dire oui, ça existe. En fait, quand un enfant se baigne, boit la tasse, il boit un peu d'eau qui contient du sel ou du chlore, en référence à la mer ou à la piscine, quoi, tout simplement. L'enfant va tousser. Quoi de plus normal qu'un enfant qui tousse quand il se baigne? C'est normal. Il ne faut pas paniquer pour autant. Mais simplement, dans certains cas, le sel ou le chlore va faire gonfler les alvéoles pulmonaires et les empêcher à capter l'oxygène, en fait. Donc, l'enfant va s'enfoncer dans son état dans les heures qui suivent. Ça, ce serait la noyade sèche. Okay. Il y a une famille, depuis que je fais des formations en 4 ans, qui m'a dit « c'est arrivé à ma fille ». Voilà. Encore une fois, je ne prends pas parti, je ne suis pas médecin, mais il y a une famille qui m'a dit « oui, ça m'est arrivé ». Ma fille de 8 ans a bu la tasse et dans la nuit, son état s'est dégradé, à tel point qu'on a été obligé d'aller aux urgences. Aux urgences, ils ont fait lien entre l'état dans lequel l'enfant se trouvait et le fait qu'elle soit baignée. Ils ont donné un peu d'oxygène, un peu d'antibiotiques, ça a vite été réglé. Le danger, c'est de ne pas savoir que ça existe. Et là, auquel cas, ça peut être fatal, malheureusement. Donc, voilà. Et il faut faire le lien entre les deux. La deuxième école, c'est d'autres médecins qui disent « non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est simplement un début de noyade qui n'a pas été pris au sérieux par les parents et dont l'état s'est dégradé dans les heures qui suivent, en fait, tout simplement. »
Quand on parle des heures qui suivent, c'est quoi? C'est 24 heures?
Certains, c'est 48 heures, certains parlent de 48 heures. Et encore une fois, il n'y a rien de prouvé. Parce qu'on ne peut pas, sur des enfants, les mettre sous l'eau, regarder comment ils réagissent, c'est pas possible, évidemment.
Mais moi, typiquement, ma fille, 48 heures après être tombée dans la piscine, elle a fini aux urgences, parce qu'elle ne pouvait plus respirer.
48 heures après? D'accord. Et ça a été évolutif comme symptôme?
Ouais, non, même pas. En fait, elle est tombée un vendredi soir et le dimanche matin, elle s'est réveillée pas très bien et une heure après son réveil, elle arrivait plus à respirer, quoi. Et aux urgences, ils ont jamais su dire si c'était parce qu'elle était tombée ou si c'était autre chose. Mais par contre, elle a fait 24 heures d'antibio avec Ventoline aérosol et au bout de 24 heures, elle allait mieux.
Donc, tu vois, concrètement, ça peut être potentiellement une nuit de sèche. Simplement, on n'a pas de retour nécessaire pour dire si ça existe ou ça n'existe pas. Tu as la deuxième personne que je rencontre qui me dit que ça existe, enfin, qui a eu une expérience perdue. Donc, ouais, voilà. Après, ça peut être un début de noyade aussi que tu as réussi à déceler. Voilà. En gros, voilà, il faut avoir toutes ces infos, il faut arriver à faire le tri. Et quoi qu'il en soit, le plus important, c'est arriver à sauver son enfant. Mais après, comme je le dis aux parents, lors des formations, je suis là pour rassurer. Le terme maître mot, c'est rassurer. Donc, très peu de cas recensés. Et quoi de plus normal qu'un enfant qui boit la tasse lors d'une baignade? C'est pas grave.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, puis moi, la mienne, elle était tombée dans l'eau sans brassard. Donc, elle est pas juste, elle a pas juste bu la tasse, quoi.
Voilà, elle a fait le tout marin, quoi.
C'est ça.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si on revient dans la maison, moi, les deux risques qui me faisaient le plus peur quand j'étais parent, c'était la brûlure. Parce que moi, j'adore cuisiner avec mes enfants et j'ai toujours du mal à trouver la limite à ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Donc, en général, les enfants moins que sûrement ce qu'elles pourraient, parce que la brûlure, c'est un truc qui me fait super peur. Et moi, je suis hyper sensible en plus au chaud, donc je me brûle très vite, donc ça m'angoisse. Et le deuxième, c'est l'ingestion des produits toxiques quand ils commencent à marcher et à fouiller partout dans les placards. Dans le cas de la brûlure, on fait quoi?
Alors déjà, de la prévention pour les deux cas que tu m'as cités. Ça, c'est important de mettre en avant la prévention, on la met en avant dans toutes les formations aussi. À titre d'exemple, voilà, j'ai pris ma fille dans différents tests de la maison avec des situations volontairement accidentogènes. Et donc, en fait, le but, c'est que les jeunes parents me repèrent ces infos pour éviter notamment les brûlures, pour éviter les indigestions, pour éviter les coups, les chutes, les traumas, tout ce genre de choses, tout ce qu'on peut retrouver à la maison. Donc là, c'est vraiment une partie prévention à mettre en place. Sur les brûlures, par exemple, comment dans ta cuisine tu t'arranges pour éviter qu'une casserole d'eau tombe? Bah, tu vas rentrer la queue de la casserole à l'intérieur, par exemple. Ça, c'est un réflexe à prendre. On peut très bien se la tomber sur les pieds, le chat peut passer, on peut très bien brouiller le chat aussi, pire, l'enfant, évidemment. Donc, il y a tout un tas de choses à mettre en place au quotidien, c'est des petits réflexes. Pour le second cas que tu m'as cité, notamment pour l'indigestion, c'est ça, sur les produits dangereux ou quoi, bien, il faut mettre les produits en sécurité. Si on ne peut pas, il faut mettre des blocs placards. Donc, il y a tout un tas de préventions à mettre en place chez soi. Donc, on fait aussi un tour de la maison pour vérifier les risques lors des formations. Ça, c'est important aussi pour vraiment essayer de cibler les risques qui est propre et qui est individuel à chaque maison, à chaque foyer, forcément. Plus concrètement, pour les brûlures. Pour les brûlures, en fait, vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Vous n'avez pas besoin de trousse de secours pour ça. La trousse de secours, elle est faite vraiment quand on est à l'extérieur. On a un produit exprès pour les brûlures, pour stopper le pouvoir calorifique, en fait, on appelle ça. Une brûlure, en fait, c'est un pouvoir calorifique donné sur une surface du corps. Okay? Le but, c'est stopper ce pouvoir calorifique. Parce qu'on peut très bien se retrouver avec une brûlure au début qui fait la taille d'une fraise de cigarette et qui est très étalée à la fin. Parce qu'on n'a pas stoppé ce pouvoir calorifique avec de l'eau, notamment. Voilà. L'idéal, c'est de l'eau. De l'eau tempérée, directement sur la plaie, tant que ça fait mal, le plus longtemps possible. Les anciens,
Ok.
vous des 3-15, 15 minutes, 15 degrés, 15 cm. Si vous retenez ça, c'est très bien. Mais l'idéal, c'est voilà, c'est mettre de l'eau le plus tôt possible, le plus longtemps possible sur la plaie. Tant que ça fait mal, c'est que le pouvoir calorifique n'est pas stoppé. Donc, on laisse le bras sous l'eau, si c'est un bras par exemple, le plus longtemps possible. Voilà.
Ok, ça marche. Et pour la gestion des produits toxiques?
Alors, comment ça peut arriver à la maison, concrètement, ça va être. On pense tous à ce produit de Javel avec ce bouchon, mais qui est impossible à ouvrir en vrai, si on est pragmatique, si on est concret. Par contre, on a de la Javel en pchit, un spray, et on ne fait jamais ce petit quart de tour sur le spray. Tu vois ce que je veux dire? au bout là.
Je vois.
Personne ne le fait, moi compris. Donc là, à la limite, c'est plus problématique. La languette, souvent, est très attrayante, de couleur vive, bleu, jaune, rouge. Donc là, il peut y avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes avec les produits d'entretien piscine, jardin aussi. Donc voilà en gros comment ça peut arriver à la maison. Les pastilles de la vaisselle, pastilles de lave-linge aussi, c'est très attrayant, c'est la couleur de bonbon, donc attention à ça. Pire, les piles-boutons. On peut en parler si tu veux après. Fais-moi y penser. Les boutons, c'est un vrai fléau, ce genre de truc. On en parlera après si tu veux.
Ok.
Donc en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. Il ne faut pas faire vomir, il ne faut pas donner à boire. Si je fais vomir, le produit va brûler dans l'autre sens l'œsophage, donc là, ça va aggraver son cas. Si je donne à boire, on va augmenter la quantité de produits dilués, donc forcément, ça va faire une masse plus importante à brûler dans l'estomac. Ce qu'il faut, c'est mettre la personne dans la position demi-assise. Si c'est un enfant, essayez de tenir en position demi-assise, lui faire comprendre autant que possible, c'est pas évident, je sais. Demi-assise, c'est la position transat, c'est les jambes allongées et le corps à 45 degrés, en fait. Voilà. Et en fait, vous pouvez essayer chez vous si vous avez une bouteille d'eau. Vous prenez une bouteille d'eau à moitié remplie. Si vous l'allongez, la bouteille d'eau, le produit, il va aller de partout dans la bouteille, phénomène du ballon, ça fait pareil dans l'estomac. Et si on met la bouteille à 45 degrés, en l'occurrence la position demi-assise, le produit se stabilise. Voilà pourquoi on met demi-assise. Là, j'imagine les gens dans la voiture ou chez eux en train de mettre la.
Ils essayent, ils se mettent en, ils essayent de remonter les genoux pour faire la position transat. On vous voit, messieurs, dames. Est-ce que y a, si une fois qu'on a mis notre enfant en position semi-allongée, là, position transat, est-ce qu'il y a, ça vaut le coup d'appeler quelqu'un ou dans tous les cas, il n'y a rien à faire à part rester dans cette position-là?
Alors oui, évidemment, effectivement, j'ai pas fini le thème. La position de demi-assise, elle est faite pour attendre les secours. L'idée, en fait, on attend les secours dans cette position, ça va limiter la propagation du produit dans le corps. Voilà. Je peux te donner encore un exemple concret. On parle beaucoup des produits chimiques, mais ça peut très bien arriver avec des champignons. Je suis en balade en forêt ou à la maison. À la maison, j'ai de la pelouse naturelle et j'ai des champignons qui ont poussé. Alors j'ai téléchargé une application qui s'appelle Mushroom. Et j'ai pris en photo le champignon et j'étais content de voir que j'avais des champignons hallucinogènes qui poussaient à la maison. Sous-entendu, les dégâts que ça peut faire sur un enfant qui met ça à la bouche. Donc, ça peut, par la mastication, ça va devenir liquide et ça va faire aussi le même effet qu'un produit toxique, en fait. Donc,
D'accord.
ça rentre aussi dans la catégorie produit toxique. Donc, c'est les mêmes choses à faire. On ne donne pas à boire, on ne fait pas vomir, on met demi-assis, on attend les secours dans cette position.
Ok, ça marche. Et du coup, les piles-boutons?
Oui, donc les piles-boutons, c'est un gros fléau. On en trouve absolument partout dans les objets du quotidien. Les télécommandes télé, les télécommandes portail, les ostéophones, pour les personnes âgées qui entendent mal, ça s'appelle des ostéophones, c'est ça? Les pointeurs laser du grand frère, de la grande sœur aussi, donc on en trouve de toutes les tailles, et ça ressemble à un bonbon ce truc. Donc les enfants, ils les voient, ils les prennent, ils les mettent à la bouche, ils les avalent. C'est un problème parce que une fois que cette pile est dans l'estomac, elle délivre de l'énergie en continu et ça fait des ulcères. Ils ont fait des tests, ils ont posé cette pile sur une tranche de jambon. Ça fait un trou en 2 heures de temps.
Ah oui.
Donc, ça a le même effet sur un estomac, ça fait un ulcère, ça fait un trou, en fait. Donc, c'est très important de conditionner ces piles dans des endroits protégés. Les jouets des enfants, ils sont protégés avec des vis. Ce n'est pas encore le cas de tous les objets du quotidien. Il faut faire très attention à ça. Même les piles usagées, pardon, elles continuent à délivrer de l'énergie. Donc, il faut vraiment les mettre dans des endroits qui sont propres. Aux piles recyclées, donc je pense au supermarché, etc. Donc, toujours des réceptacles dédiés à ça. C'est important de les faire recycler. Et aussi, quand on achète des piles, ce qu'on ne pense pas forcément, c'est que le prix de la pile, ce n'est pas forcément la qualité de la pile, c'est la qualité de l'emballage, c'est la qualité de la protection, en fait. Plus une pile est chère, plus l'emballage est résistant et protégé et testé, notamment pour les enfants. Voilà. Du coup, il y avait tellement de cas que le gouvernement a demandé aux fabricants de piles de trouver une solution pour enrayer ce fléau. Et du coup, Duracell ont été les premiers, je peux les citer, je ne sais pas, je n'ai pas d'action chez eux, mais c'est important. En fait, ils ont créé une pile goût amer. Donc, en fait, c'est la pile plate goût amer, l'enfant la met à la bouche, c'est pas bon, l'enfant recrache, il ne l'avale pas.
D'accord, ok. Ben, c'est important de le savoir, parce qu'effectivement, il y en a partout.
Ouais, complètement.
Alors, on a déjà pas mal fait le tour de pas mal de risques. Il y en a encore deux que moi, je ne connaissais pas du tout quand je suis devenue maman. C'est le spasme du sanglot et les convulsions hyperthermiques. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est déjà, dans quel cas ça se produit et comment on réagit en tant que parent?
Oui, alors le spasme du sanglot, en fait, déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucun caractère de gravité à ça.
Ça se matérialise comment?
Alors, un enfant qui pleure, okay, un enfant qui retient sa respiration et qui est complètement en apnée. Il faut savoir que 4 à 5% des enfants le font au moins une fois dans leur vie. Visuellement parlant, l'enfant pleure, mais aucun son ne sort, en fait. Ou alors l'enfant est en boue de pleurs, de pleurs, de pleurs, de pleurs, de pleurs. Donc, en fait, il n'y a plus de son qui sort et on voit que l'enfant a du mal à reprendre la respiration. Donc, forcément, l'enfant change de couleur parce qu'il manque d'oxygène, il devient bleu et il tombe dans les pommes. C'est la logique. Il tombe dans les pommes, il reprend la respiration, comme il arrête de pleurer, en fait.
Okay. Mm-hmm.
Et comme il reprend la respiration, il se réveille au bout de 10 secondes, grand max. Il n'y a aucun caractère de gravité à ça. Mais c'est très important de savoir ce que c'est parce que des parents ont secoué bébé pour le réveiller, en fait. Et là, on n'est plus... Je fais un truc qui est complètement irréversible. Alors qu'il y a 0% de gravité sur un spasme du sango. Maintenant, il y a plein de petites choses à faire pour essayer d'enrayer ce phénomène d'apnée. En l'occurrence, rassurer le bébé dès le début de la crise, en lui soufflant fort sur le visage. Vous pouvez essayer chez vous aussi, ça ne lui fera pas de mal, ça va un petit peu l'embêter, c'est tout. En soufflant très fort sur le visage de l'enfant, il a ce réflexe-là en fait. Il reprend de l'air en retenant, c'est un réflexe qu'ils ont. Comme un enfant qui prend du vent dans la tête, c'est la même chose en fait. Donc en fait, vous êtes reparti sur un cycle respiratoire. Donc ça, c'est des petites choses à savoir dont on n'est pas forcément au courant quand on devient jeune papa, jeune maman. Alors que c'est super important parce que quoi de plus stressant que voir son bébé inanimé au sol?
Clairement.
Il a perdu connaissance parce qu'il manque d'oxygène. C'est très impressionnant, mais c'est pas grave. Et avec du recul, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun caractère de gravité à ça.
Ok, donc il faut juste arriver à tenir les 10-15 secondes jusqu'à ce qu'il se réveille, quoi.
Si vous avez YouTube, vous tapez spasme du sango, vous avez trouvé plein de vidéos, on voit le bébé vraiment en apnée, le visage se déforme, il change de couleur, il s'éteint et il se réveille.
D'accord.
Mais pour autant, ils vont bien, il n'y a aucun caractère de gravité à ça, il n'y a aucune séquelle. Le seul danger qu'il pourrait avoir, c'est un enfant qui marche, en fait, et qui, lors de la perte de connaissance, chute sur un objet pointu, saillant ou quoi que ce soit. Mais c'est la chute qui va créer le problème, c'est pas le spasme du sanglot lui-même, quoi.
Voilà. Ok, d'accord. Et les convulsions hyperthermiques?
Alors, les convulsions hyperthermiques, du coup, c'est un enfant qui fait une chute ou une montée de fièvre brutale. Alors, la plupart du temps, c'est une montée de fièvre, par exemple, pour l'hyperthermie. Forcément, oui, hyper, c'est une montée de fièvre. Et c'est ce qu'on peut observer la plupart du temps. Donc, en fait, c'est l'enfant fait de la fièvre ou pas, et d'un seul coup, il y a un pic de fièvre qui se crée. En fait, il y a une décharge bactériologique qui est faite dans le corps de l'enfant. Et pour se défendre, l'enfant fait une décharge de défense immunitaire. Dans son corps, c'est un petit peu la bataille. Et on ne sait pas pourquoi. La moins value de ça, c'est que l'enfant se met à perdre connaissance et à convulser. Donc, du coup, on sait que la crise est due à cause de la fièvre. Donc, notre objectif, ça va être quoi?
Faire baisser la fièvre.
Faire baisser la fièvre. De quelle façon? En le déshabillant. On peut très bien le poser sur un sol frais, type carrelage. Même l'été, c'est très frais. En ouvrant les fenêtres pour faire courant d'air. On ne peut pas le donner à boire parce que forcément, il est déjà inconscient. On ne lui met rien dans la bouche, ça ne sert à rien. Ce qu'il ne faut pas faire, vraiment, c'est le bain. Le bain, c'est à proscrire complètement parce qu'on n'est pas apte, dans ce cas-là, à prendre un bain à 1 degré ou 1 degré et demi en dessous de sa température parce qu'on va faire n'importe quoi, parce qu'on va être paniqué. Et donc, on peut créer un choc d'hydrocution. Donc là, ça va aggraver son cas. Donc, le bain, ce n'est vraiment pas recommandé. Voilà. Rien qu'en appliquant ces consignes, la crise devrait s'arrêter et les secours devraient arriver. Prendre en charge l'enfant, aller faire une petite consultation chez un pédiatre aux urgences et puis voilà, pour être tranquille.
Ok, ça marche. Alors moi, j'avoue, j'ai la chance de n'avoir connu ni l'un ni l'autre et ça ne me manque pas. C'est pas grave. Ok, bah écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon tour des premières questions qu'on peut se poser. Après, je pense que ça vaut le coup de toute façon faire une formation en présentiel pour évaluer tout ça, quoi.
Oui, forcément, ça n'empêchera pas de faire une formation parce qu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les parents ont des questions différentes auxquelles d'autres parents n'ont pas forcément pensé, et même moi. Donc même moi, j'apprends tout le temps en faisant des formations parce que j'apprends tout le monde de tous les milieux sociaux, de toutes les catégories. Donc c'est super intéressant d'aller chez les gens, les rencontrer avec leurs proches, leur faire une formation en toute bienveillance, en toute quiétude, avec un ton d'humour. Le but, c'est les rassurer, qui repartent avec toutes les armes nécessaires pour voir leur vie familiale être peinarde et tranquille. Voilà.
C'est ça. Et puis, vous pourrez tester la position du transat en direct, comme ça.
Là, vous pourrez, pour nous.
Bon, ben super. Merci beaucoup, Kevin.
Merci à toi.
Cet épisode touche à sa fin. Si vous souhaitez organiser une session de formation pour vous et vos proches avec Famille de Sauveteurs, rendez-vous sur le site www.familledesauveteursaupluriel.com. Pour retrouver les t-shirts anti-noyade flotty dont parle Kevin, je vous mets le lien vers le site internet dans les notes de l'épisode. Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille, ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne ? En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.